Alors nous nous étions arrêtés au baptême, voilà. Et donc là, on va parler de la théologie des larmes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Enfin, c'est plus spécifiquement, enfin, c'est chrétien, mais c'est plus spécifiquement orthodoxe. Voilà, les larmes. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, Saint Jean Climaque dans l'échelle sainte, il dit. Comme nous recevons le baptême dans l'enfance, nous le souillons par la suite. Mais au moyen des larmes, nous le renouvelons dans sa pureté première. Et si Dieu, dans son amour pour les hommes, ne leur avait donné les larmes, bien rares et difficiles à trouver sont ceux qui se sauveraient. Voilà. Alors les premières larmes arrivent de manière impromptue. La première difficulté, c'est de les identifier. Voilà. Quand nous pleurons, donc en tant qu'humains, c'est en général, disons, pour une bonne raison, enfin, tout au moins déterminée. Recherchez dans votre vie vos dernières larmes et à quelle occasion elles se sont produites. Alors, j'ai mis en regardant un film, en écoutant une musique inspirante, dans une situation de vie éprouvante. Voilà. Ces larmes sont habituelles pour nous humains. Mais quand elles se manifestent lors d'un office, pendant une prière, lors d'une oraison, nous sommes légitimement amenés à nous interroger. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est une expérience. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Ben, questionner les clercs que nous avons dans notre cercle de vie, mais au risque de devoir nous contenter d'une réponse laconique. Enfin, moi, c'est ce que j'avais eu. On m'a dit c'est de la sensibilité. Et puis, comme ça se reproduisait, on m'a dit c'est de l'hypersensibilité. Voilà. À l'époque, je ne travaillais pas encore avec Jean-Claude. Voilà. Or, ces larmes, elles ont une finalité, c'est celle de purifier notre âme. C'est de la purifier des fautes commises après le premier baptême, quel que soit l'âge auquel nous l'avons reçu. Siméon, le nouveau théologien, dit car en l'absence d'eau, impossible de nettoyer le vêtement souillé, et sans larmes, il est encore plus impossible de nettoyer et de purifier l'âme de ses taches et de ses saletés. Voilà. Dans la tradition orthodoxe, donc, la place prépondérante des larmes est inscrite dans ce qu'on appelle la théologie des larmes. Dans le typicon, qui est le rituel qui contient les instructions sur l'ordonnancement et l'isme de l'office divin, donc de l'Église orthodoxe, vous pourrez trouver un certain nombre de prières à prononcer lors des prières du soir, du matin ou du lever, ou dans l'office avant de recevoir la communion. Alors, je vous en donner deux exemples, donc. Ô toi, pure Mère Dieu, jette un regard sur moi, pécheur, délivre-moi des filets du diable, et conduis-moi sur le chemin du repentir, que je pleure amèrement mes actes. Et il y en a un autre. Donc il y en a une flopée invraisemblable, j'ai retenu ces deux. Ô Christ, donne-moi de verser des larmes qui effacent les taches de mon cœur, afin que la conscience purifiée, je m'approche avec foi et crainte de la communion à tes dons vivants. Donc selon Siméon, le nouveau théologien, le baptême des larmes constitue donc le signe le plus certain que l'âme a commencé à renaître dans l'Esprit Saint. Ces premières larmes du repentir purifient l'âme de celui qui, comme David, reconnaît ses péchés. Nous évoquerons un peu plus loin les secondes larmes, fines, subtiles et signes de la seconde naissance dans l'Esprit. Bon, vous pourriez objecter que cette purification, elle existe déjà dans le sacrement de la confession. Pour les pères hésicastes, ce sacrement ne suffit pas s'il n'est pas associé aux larmes. Et Saint Jean Chrysostome d'ajouter, il est encore une voie que vous présente le repentir. En quoi consiste-t-elle ? Vous avez péché, pleurez et votre péché vous sera pardonné. C'est cette affirmation que les larmes ont reçu de Dieu le pouvoir d'effacer les péchés commis après le baptême, qui fait que les pères de l'Église ont forgé une doctrine qui, bien que non sanctionnée par des conciles, est inscrite dans les textes liturgiques de l'Église orthodoxe. À propos de saint Pierre, qui, bien que baptisé par le Christ, commet un triple reniement, la triple apostasie lors de la Passion, saint Chrysostome écrit « Pierre comprit et se mit à pleurer. Ses larmes ne furent pas des larmes communes. Elles furent amères, et les pleurs qui coulèrent de ses yeux furent pour l'apôtre un second baptême. » Une chose est d'être délié d'une faute commise après le baptême. Et le sacrement de la confession donne l'assurance que celle-ci ne nous est plus comptée. Autre chose est d'être purifié des passions délétères qui nous ont conduits à l'acte du péché. Et là est la place irréprensable du baptême des larmes. Rappelez-vous David. Les pères hésychastes soulignent bien que David a eu la certitude par le prophète Nathan, voix de Dieu, que ses péchés ont été remis. Or il pleurera des années durant sur sa couche, effaçant et purifiant ainsi par des torrents de larmes les passions qu'il avait amenées à ses péchés. Nous rejoignons à travers l'action purificatrice des larmes cette séparation de la partie contemplative de l'âme, le nous, que des pères ont nommé l'œil de l'âme. Donc c'est la séparation de cette partie d'avec le monde. Lorsque l'âme par les larmes du repentir s'éloigne de la chair, car dans le flot des larmes, il dissout les saumâtres préoccupations terrestres, elle dépasse la médiocrité des choses visibles et se libère de la tyrannie des passions pour atteindre la pleine lumière. Ça, c'était pour les premières larmes. Alors ça se passe dans un temps, enfin je ne sais pas si ceux qui l'ont expérimenté, mais ça se passe dans un temps qui peut être relativement long. Moi pour ma part, je suis passé des premières au deuxième en 4 ans pratiquement. Enfin, je m'en suis rendu compte a posteriori, parce qu'Antonio ne sait pas ce qui se passe. Les secondes larmes tarissent les premières. La première modification entre ces deux états, chez celui qui est vraiment entré dans cette expérience des larmes, c'est qu'il ne pleure plus abondamment ni fréquemment. Il ne verse plus de larmes abondantes, mais discerne la nature déchue et ses fautes. Il voit surtout l'épaisseur qui le sépare de l'intimité divine. Il est endeuillé de l'état de son âme qu'il trouve insuffisamment purifié à son lit. Il est surtout stupéfait dans cet état réel de stupeur spirituelle de l'intensité en lui de l'amour du Christ. Les secondes larmes viennent sans effort. L'âme doit alors abandonner toute activité pour se consacrer totalement à l'immersion miraculeuse dans cette prière. L'étape intérieure des secondes larmes, qui se reconnaît au signe indiqué au-dessus, mais aussi par la raréfaction des premières larmes, sans qu'elles disparaissent totalement. Elles peuvent toujours revenir aux différentes étapes de la vie spirituelle. Celui qui est dans les secondes larmes pleure les larmes douces en lisant des passages de l'Écriture, en étudiant les témoignages de frères, comme saint Jean de la Croix ou saint François d'Assise, ou en considérant les éléments de notre propre conversion. Les premières larmes réécrivent la mise au tombeau, les secondes sont le signe de la résurrection spirituelle. Il faut aussi préciser que la résurrection de l'âme présuppose la mort volontaire dans le mystère de la croix sur laquelle est crucifié le vieil homme. Bienheureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Apocalypse 26. Le second baptême des larmes devient la purification des soucis du monde, des préoccupations terrestres qui maintiennent l'âme dans le bruit du monde. Les larmes sont alors devenues la source du silence incréé et la lisière de la forêt de l'inconnaissance dans laquelle elle est plongée lorsqu'elle reçoit sa seconde naissance dans l'esprit. Et pour finir, dans la phrase de Michel de Corson, pour clôturer, l'homme de l'esprit est inconnaissable comme Dieu est inconnaissable. Voilà, Michel de Corson. Voilà. Voilà pour les larmes. Alors moi, si vous voulez, j'ai proposé à Jean-Claude de faire ce témoignage, ça, sur les larmes, parce que, en fait, comme je vous décris, quand ça m'est arrivé, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà, les premières fois, ça me prenait pendant un office, et je pleurais, j'arrêtais plus de pleurer, je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà. Et le prêtre, un prêtre que je fréquentais à l'époque, en fait, quand je lui ai demandé, il n'a pas su me dire. Parce que visiblement, après, j'ai fait le tour des prêtres que je fréquente, qui sont donc en général des catholiques romains. Visiblement, ils ne savent pas de quoi ils retournent. Ils en ont ou vaguement entendu parler, mais il ne semble pas que ce soit un problème particulier. Voilà. Après, donc, c'est des orthodoxes qui m'ont renseigné. Voilà. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait être important parce que, ou vous, ou d'autres, ou des gens dans votre entourage pouvaient être frappés, entre guillemets, par ce phénomène. Et que c'est quand même, enfin, c'est pour moi un phénomène très important. Parce qu'un, ça mène à quand même un nettoyage de l'âme. Et donc, c'est dans le thème de la purification. Et quand même, ça donne une deuxième. Quelque part une deuxième chance, puisqu'on on atterrit avec des deuxièmes larmes sur la seconde naissance. Voilà. C'est OK? Bon. Alors là, je vais passer à un autre chapitre qui était le yoga comme instrument de purification. Bon, donc vous avez sûrement entendu parler du yoga ou vous avez pratiqué. Et le problème de la conception occidentale du yoga, c'est qu'elle se réduit très souvent à une gymnastique, donc essentiellement à un aspect du corps. Alors c'est pas grave de pratiquer le yoga comme ça. Hein. C'est juste qu'il n'est pas prévu pour ça. Mais après, bon, ça. Après, on peut faire ce qu'on veut aussi. Voilà. En fait, les asanas, puisque ça s'appelle comme ça, en sanskrit, ne sont qu'un élément du yoga. On retrouve le vrai sens de yoga dans un des aphorismes extraits du Yoga Sutra de Patanjali, dont c'est le 2.29, qui traite du Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, ça veut dire le yoga des huit membres. Et le yoga des huit membres sont donc les yamas. Alors les yamas, c'est un peu comme les dix commandements. Alors les yamas, ce sont les règles de vie dans la relation aux autres. Ensuite, il y a les niyamas. Ce sont les règles de vie dans la relation à soi-même. Donc, après le 3, c'est les asanas, ce dont je vous ai parlé, ça s'appelle la pratique de la posture. Ensuite, on a le pranayama, qui est la pratique de la respiration. Et ensuite, il y a le pratyahara, qu'on appelle l'écoute intérieure, mais c'est aussi appelé en sanskrit le contrôle des sens. Voilà. Et c'est en cela qu'on se rapproche de la purification. Voilà. Ensuite, il y a l'écoute intérieure, pratyahara, l'exercice de la concentration, dharana, la méditation, dhyana, et l'état d'unité. Voilà. Comme je vous ai dit ce matin, le mot de yoga, c'est un verbe, donc le mot yoga, il vient d'un verbe qui s'appelle yuj, ou yug, et qui veut dire joindre, unir, voilà. Et cette union intervient entre le bas, donc la prakriti dont je vous ai parlé ce matin, qui doit se lier avec le haut, le purusha, donc qui est l'être suprême. Voilà, il y a d'autres mots. Alors, le yuj, ça dit aussi mettre le joug. Yuga, c'est la paire ou le couple. Et yoga gati, c'est l'état d'union. Voilà. Donc en fait, on retrouve un peu la même problématique que la nôtre en tant que chrétien. La pratique du yoga permet donc de relier le corps et le mental à l'essence, l'âme, afin que tous trois soient harmonieusement unis. Cette union entre le bas et le haut, nous pouvons le rapprocher donc sans outrance avec l'union d'amour avec Dieu, chez nous, donc chez les chrétiens. L'autre terme, qui représente un intérêt certain, donc c'est pratyahara. On pratihara dans le chez Renou, là, c'est un dictionnaire. Les exégètes l'emploient souvent dans le retrait des sens. On retrouve cette obsession chez le Yoga Sutra de Françoise Mazet, qui est une Toulousaine contemporaine, qui le traduit aussi de cette façon-là. Alors, le but de l'union d'amour avec Dieu, ou l'abandon au divin, c'est un des buts du yoga, de la même façon. Et le but de cette purification, c'est de réaliser l'union avec Dieu. Cette union d'amour est en fait une attitude d'abandon, d'adhésion, d'acceptation. En fait, là, j'ai mis les trois parce que, comment dire, pour moi, j'avais dit acceptation, et puis quand on en a discuté avec Jean-Claude, il m'a dit, c'est peut-être de l'abandon. Et puis en réfléchissant, j'ai dit, c'est aussi une forme d'adhésion. Alors j'ai mis les trois, comme ça vous aurez le choix de prendre l'option qui vous semble la plus certaine pour vous. Voilà. Donc on en reparlera quand nous aborderons la purification de chez Saint Jean de la Croix, puisqu'en fait on est dans le même ordre. Dans la continuité de cette étude de purification chez les hindous, si nous prenons connaissance du sutra YS de 45, dont le contenu est traduit par an, l'abandon à Dieu mène à la perfection du samadhi. Alors le samadhi, c'est un état, et c'est ce qui est le plus proche de ce qu'on peut appeler le paradis. Voilà. Parce que souvent on pense que le paradis c'est un endroit où tout va bien, mais en fait c'est plutôt un état. Voilà. Le samadhi c'est à peu près la même chose. Quand je dis à peu près, c'est que on peut le voir. Voilà. On peut le nuancer. L'abandon à Dieu libère le pratiquant de son attachement au désir sensuel et nourrit en lui la forme la plus intense, de l'assiduité. Autrement dit, elle permet de développer la constance dans la discipline, dans l'ascèse. Ce commentaire nous renvoie à un autre, alors je ne vous dis pas le numéro, ça ne présente pas d'intérêt, qui dit « Le renoncement ultime consiste à transcender les qualités de la nature et à percevoir l'âme. » On est toujours dans la même chose, finalement. Si on fait abstraction de ce qui est de l'ordre du sanskrit, on est très proche de ce que dit Jean de la Croix. Ce sutra mène à l'essence même de la méditation. Et là, Jean-Baptiste, par exemple, dit « Nul ne peut rien s'attribuer qui ne lui soit donné par le ciel. » Ceci est vrai dans la vie matérielle, comme dans la vie spirituelle. L'abandon au divin n'est pas constitué par un acte délibéré et ou volontaire. Si c'était le cas, il faudrait le rapprocher d'un acte égocentrique et donc on se tromperait. Cet abandon, c'est le relâchement complet sur la rive du réel, du connu. La pensée est incapable de voir, d'imaginer l'autre rive. Elle ne peut pas concevoir ce qu'elle n'a pas vu et ce qu'elle a du mal à imaginer. Alors je vais rapprocher d'un truc. Quand je suis arrivé à Santiago, après j'ai continué jusqu'à Fisterra, et en fait je suis arrivé au bord de l'Atlantique, et je me suis rendu compte, en fait, en regardant en face, il n'y a rien. Voilà. Et j'ai repensé à Christophe Colomb, qui a 500 ans à peu près, pouvait être devant la même chose, bon, même si lui était marin, moi je ne le suis pas, ou bien peu. Et de dire là, je vais y aller, bon, il y a quelque chose en face, mais je ne sais pas trop où c'est, je ne sais pas où je vais y aller. En fait, la position en spiritualité, elle est à peu près la même. C'est-à-dire, on est sur une berge, on va sauter vers l'autre, on va fabriquer un bateau, enfin, on va dire un radeau avec nos moyens pour traverser, mais on ne sait pas si ça suffira, si ça ne suffira pas, et on ne sait pas où on va. Voilà. En spiritualité, on en est à peu près dans la même configuration. Donc, la conséquence, c'est que nous devons tout lâcher sans pouvoir projeter les conséquences de ce relâchement. Ainsi, beaucoup restent sur cette rive. Voilà. Alors, ça aussi, on le reverra un peu plus tard là, chez Jean de la Croix, où il explique qu'à toutes les étapes de la nuit obscure, on peut lâcher. C'est-à-dire que le Seigneur nous laisse toujours notre liberté. Et si on ne se sent pas bien dans cette situation, on peut en sortir. Voilà. Et si une âme y parvient, donc à lâcher, c'est qu'elle s'est justement abandonnée à cela qui déjà est toujours et de l'autre côté. L'humain fait place au divin. Pour les hommes, impossible de se sauver, mais non pour Dieu, tout est possible pour Dieu, dans Matthieu. S'abandonner au divin ne signifie pas s'abandonner à un autre être, mais s'abandonner au seul être, à son être particulier. Et là, devant la futilité de ses efforts, la pensée se résout à je ne sais pas. Mais qui est ce jeu? Nous retournons au jeu du début, à Amkara, qui est la connaissance du jeu, parfois égo. Nos pensées sont principalement émises par ce niveau, ce qui induit couramment une erreur et qui de plus nous amène sur le chemin des conflits avec les autres, car nous sommes identifiés à nos pensées, c'est ce qu'on a vu ce matin, et que nous ne supportons pas leur remise en cause. La négation d'une existence séparée entre le moi et le tout, entre le point de vue égocentrique et la vérité de tout ce qui s'est. Être touché par la grâce, c'est cela. C'est basculer d'un point de vue humain à une vision divine. Le samadhi n'est pas un exercice mental, ou psychologique si vous voulez, c'est l'effet de la grâce éclairante qui touche l'homme dans son expérimentation d'humain. Le swami, alors swami on dit celui qui sait, Shyam disait « Ne vous inquiétez pas au sujet du samadhi, c'est mon affaire. Contentez-vous de maintenir votre corps en santé et votre mental pur. » Car c'est tout le sens de la purification, au moins chez les hindous, pacifier et contrôler son mental pour abandonner nos oripos et avancer vers Brahman, donc l'être suprême. Voilà. Oui, j'ai pas essayé de le rapprocher, mais pour moi, si on supprime tout ce qui est hindou, enfin, en termes de langue par exemple, on a quelque chose qui est très proche de la purification chez les chrétiens. Voilà. C'est bon? Bon. Alors on va passer à Jean de la Croix. Alors pour Pratyahara, le retrait des sens, eux, dans la Bhagavad Gita, ils disent, c'est assez amusant, parce que, comment dire, on a l'impression que si on perd nos sens, on perd toute perception. Et en fait, c'est pas ça. Eux, ils comparent ce phénomène du retrait des sens, ils le comparent à une tortue. Ils disent la tortue, quand elle est menacée ou autre, en fait, elle se retire dans la coquille, mais elle reste vivante. Et donc, ils disent, en fait, le retrait des sens n'amène pas à la perte de la sensibilité. Voilà. Alors, la purification chez Jean de la Croix. Alors, dans la vive flamme d'amour. Alors, là aussi, si vous voulez, alors ce que je fais là, c'est aussi de l'expérimentation, parce qu'en fait, sans rentrer trop dans le détail, il y a quelques années, une paire d'années, j'étais dans un souci, je croyais que j'étais dans un désert spirituel, et en même temps, de ce que je savais des déserts spirituels, ça ne correspondait pas tout à fait. Voilà. Et quand j'ai commencé à questionner Jean-Claude, il m'a fait deux réponses à quelques semaines d'écart. Il m'a dit « L'époque des bonbons est terminée. » Et la fois d'après, il m'a dit « L'époque des douceurs est terminée. » Bon, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais ce qu'il y a, c'était une période qui était assez difficile. Je ne sais pas si vous avez traversé des déserts spirituels, mais là, c'était difficile. Et comment dire? Et un jour, je suis allé dans ma bibliothèque. Et je suis allé récupérer La Nuit Obscure, que j'avais acheté précédemment, après un propos de Jean-Claude. Et en lisant, je me suis retrouvé dedans. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, choisir La Nuit Obscure et Saint-Jean de la Croix, ce n'est pas un choix intellectuel. On ne décide pas d'aller là, on s'y retrouve. Voilà. Alors ce qui avait provoqué l'achat du livre, c'est au début, donc, comment vous dire, je posais toujours la question à Jean-Claude, je disais, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Alors ça vient de l'hindouisme, parce que les hindous, ils se posent toujours la question, est-ce que je suis dharma, donc dans la voie, ou est-ce que je suis adharma, en dehors de la voie? Voilà. Et je posais toujours cette question. Et un jour, il m'a dit, écoute Jean, tu vas arrêter de te la poser, tu vas arrêter de me la poser, voilà. Je dirais pas que je devais le gonfler, mais parce qu'il est trop gentil. Mais c'est le Seigneur que j'ai eu. Et il me dit, non seulement tu es dans la voie de Dieu, mais en plus, tu es sur un chemin de passion. Et je te dirais même plus, tu es sur la voie des grands mystiques comme Jean de la Croix. Donc à ce moment-là, j'avais acheté, enfin, je ne vais pas dire tout Jean de la Croix, mais j'avais acheté 4 bouquins sur Jean de la Croix. Mais en fait, je n'ai pas réussi à les lire parce que visiblement, ce n'était pas mûr. Donc je suis rentré beaucoup plus tard. Bon, ça devait faire une bonne année après, quoi. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de Jean de la Croix, il s'agit donc de rentrer dans une purification. Alors, la purification, c'est quoi ? Enfin, on en parle depuis ce matin sans la définir. La purification, donc, on peut dire que c'est un acte qui est destiné à effacer une imperfection, alors physique, morale, naturelle, contractée, peu importe, ceci dans le but de se mettre dans un état permanent et de se mettre en relation avec le divin. Voilà. Cet acte n'est pas à proprement parler un acte volontaire. Bon, si le libre arbitre, ce que je vous ai dit là, est aussi respecté pour entrer dans ce processus, c'est avant tout une volonté du Seigneur. Voilà. Jean de la Croix, dès le début de la nuit obscure, il dit la chose suivante. L'âme commence à entrer dans cette nuit profonde quand Dieu l'élève au-dessus de l'état de ceux qui débutent, c'est-à-dire de ceux qui servent encore de la méditation dans la voie spirituelle. Voilà. Donc en fait, moi c'est ce qui m'est arrivé, on s'y retrouve dedans. On ne peut pas dire qu'on est choisi. Voilà. Toutefois, il est nécessaire, visiblement, il est nécessaire de faire un pas vers Dieu. Comme le mentionne sainte Faustine dans le Petit Journal, comme il est facile de se sanctifier, c'est ce qu'elle dit, il faut seulement un petit peu de bonne volonté, et si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte de se donner à elle. Voilà. Dans le même ordre d'idée, Jean de la Croix dit, quand l'âme se détermine généreusement à servir Dieu, elle est ordinairement élevée par lui à la voie spirituelle. Cette nuit obscure, alors cette nuit obscure, c'est... En fait, chaque fois qu'il emploie le mot de nuit obscure, ça désigne la contemplation, parfois, enfin, elle est parfois qualifiée de purgative ou de mystique. Voilà, systématiquement. Hein. C'est elle qui purifie et qui délivre l'âme de toutes ses imperfections. Alors, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en fait, quand on rentre là-dedans, il est urgent de ne rien faire, si je puis dire. La chose la plus importante qu'on ait à faire, c'est à lâcher et d'éviter de revenir à nos anciens fonctionnements. Voilà. Donc, ce vieil homme, dont nous avons déjà largement parlé, correspond à notre ancienne nature, à tous les mauvais aspects de notre personnalité qui se sont développés à cause du péché et de son impact sur nos âmes, attachés aux choses de la terre et prisonniers de ses passions. Notre environnement humain est constitué de personnes colériques, susceptibles, agressives, intolérantes, lâches, grossières, impudiques, orgueilleuses, dont nous faisons partie aussi. Et avant d'être consacrés par le baptême, voilà, nous en faisions partie. Lorsque le Christ est entré dans notre vie, il a régénéré totalement notre esprit. C'est ce que dit Luc 24, 44. Voilà. Ah oui, je vous l'ai lu ce matin, ça c'est celui-là pour... Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Cependant, notre âme, liée à la chair, doit entamer un processus de purification, d'où la nécessité de mourir à soi-même et de dépouiller le vieil homme. Voilà, nécessité de mourir à soi-même, on rejoint ce que disait Jean-Claude ce matin. Voilà, il y a une nécessité incontournable d'agir dans ce sens. Donc, la nécessité de mourir à soi-même et de dépouiller le vieil homme. Malgré la conversion, nous restons marqués par le péché. Et les mauvaises habitudes sont profondément ancrées. Pardon. Oui, elles sont profondément ancrées. Alors, dans le psaume 51, il est dit: Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a reconnu dans le péché. Alors, l'iniquité, c'est quoi? Alors, je ne vais pas faire un long développement, mais l'iniquité, c'est une mauvaise action, une injustice. Voilà. Jésus parle des ouvriers d'iniquité qui devront se retirer de lui. Luc 13, 27. Pour enlever ces stigmates de l'iniquité, il faut laisser Dieu opérer un travail de purification et accepter de renoncer chaque jour à soi-même. C'est l'enseignement principal de la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Dans Luc 9, 23, il est dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La sanctification n'est pas uniquement de cesser la pratique du péché, c'est aussi renoncer à soi-même. Tout en étant lucide sur notre comportement et ne pas continuer à satisfaire notre chair, CHIR, en flattant notre ego qui se félicite de cette pseudo-sainteté. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ce que l'on croit être. C'est renoncer à cette identification matérielle et dont la conséquence est notre attachement à cette identité. Toutes les caractéristiques ou caractères qui constituent ce personnage. Alors je fais un renvoi à la persona de Jung, dont on a parlé hier dans la voiture. Vous savez ce que c'est la persona? Vous vous souvenez, notamment chez les Grecs, mais avant aussi, les femmes ne pouvaient pas faire de théâtre. Et donc, l'acteur, puisque c'était un homme, qui jouait la femme, mettait un masque. Et ce masque s'appelait la persona. Et par extension, Jung considère que la personne, enfin la personne, là où la persona à laquelle nous sommes identifiés, qui est cette espèce de moi, c'est la même chose que la persona du théâtre. C'est-à-dire, c'est une fausse identité. Voilà. Et on se trompe en s'identifiant à ce moi. Voilà. C'est oublier donc que ces caractères se sont forgés dans le monde et par la pratique du péché, mais ils ne sont pas l'œuvre de Dieu, c'est ce que je vous ai dit ce matin, mais c'est celle du monde et de son prince. C'est un élément fondamental, ça aussi. Ainsi, même s'il n'y a plus de pratique manifeste d'un péché, notre moi doit mourir pour laisser le Christ former en nous. Son désir est de faire de nous des personnes nouvelles, et pour cela, nous nous devons de sacrifier notre vieil homme, qui doit être relégué au passé. Bon, ça, je vous ai mis une série de citations que je ne vais pas toutes vous les lire. Je vais à cela. Donc, de Saint Paul. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris le titre, du moins vous l'avez entendu, attendez. Vous dépouillez, eu égard à votre vie passée du vieil homme, ce qui corrompt les convoitises trompeuses. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc c'est dans les Éphésiens 4:20. Le but du Seigneur n'est pas de nous métamorphoser, de nous cloner, mais de nous apprendre à vivre avec notre vraie nature qui est en lui. Alors je l'ai sûrement dit plus tôt parce que j'ai marqué que c'était un rappel. Le siège des sentiments se trouve aussi au niveau de l'âme, endroit où le vieil homme résiste avec opiniâtreté. Chaque personne a ses goûts, ses désirs, ses aspirations, ses passions. Certains désirs sont légitimes, d'autres sont répréhensibles. C'est ce que je vous ai dit ce matin, ça. Hein. Nous devons ainsi dépasser par un abandon de nos passions. Nous l'avons évoqué donc précédemment. Le but de toute purification est de revenir vers Dieu pour comprendre qui l'on est vraiment. Il existe dans chaque cœur humain le souvenir lointain et inconscient d'un amour parfait, inconditionnel, agapé donc en grec, qui nous habitait dans le jardin d'Éden. Cette perte nous laisse une cicatrice, toujours sensible, dans l'âme, ainsi qu'un vide sidéral dans notre être. Un vide si important que rien ni personne n'a été en mesure de le combler. Ainsi, la plupart des humains passent leur vie entière en quête de cet amour transcendant qui puisse nous combler. Le culte de l'ego n'est qu'un substitut, un palliatif, une façon d'attirer l'attention sur nous. Nous nous trompons et de type d'amour et de direction. C'est le cœur qui a besoin d'être comblé. Or, notre recherche se dirige vers la chair, dans une quête de plaisir, du bonheur, qui ne porte que sur des objets matériels, temporaires, instables, impurs. Là est le drame de l'homme. Il ne le cherche pas au bon endroit, il ne le cherche pas dans la bonne direction. Étant les yeux fixés sur le monde et les objets créés, il ne voit pas. Il reste froid et indifférent aux sollicitations du Seigneur. Frustré, car les plaisirs de la chair ne peuvent combler un cœur vide ni soigner les blessures de l'âme. Ignorant, car nous n'avons pas connu la vraie joie ni les vrais projets de Dieu pour nous. Voilà. Donc ensuite, le travail sur les sens, puisque dans la nuit obscure de Jean de la Croix, il y a deux éléments. Il y a la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Alors, pour parler de la nuit des sens, voilà. un distique de la Bhagavad Gita, les objets des sens disparaissent pour l'âme qui n'en fait pas son aliment. La sensibilité reste. Bon. Tout à l'heure, ce matin, je vous ai parlé des deux mondes. Voilà, le monde matériel humain et le monde spirituel. Les sens qui nous permettent l'appréhension du créé et sa construction dans toutes ses dimensions se développent essentiellement dans le monde matériel. Comme le fait la religion hindoue, il faut associer aux cinq sens le mental, qui est pour eux le sixième sens. Voilà, nous on dit cinq sens, eux, ils en parlent de six, parce qu'ils associent le mental qui gère les organes, entre autres. Car sans lui, donc, sans le mental, rien ne fonctionnerait. D'autre part, le fait que les sens appartiennent au monde, donc au monde matériel, humain, a pour conséquence que tous les produits de ces sens, reçoivent toutes les qualités de ce monde. Ainsi sont-ils relatifs, temporaires, limités, finis, instables et bien entendu impurs. Si on regarde de plus près, en quoi consiste la vision, en tant que principe? Alors la vision, d'abord, ça commence par un œil, donc qui est un organe. Cet organe reçoit des stimuli. Même s'il fonctionne normalement, il ne permet qu'une vision particulière, habituelle, relative. Ce que nous considérons comme notre environnement. Mais il nous a fallu inventer le microscope pour voir l'infiniment petit et des télescopes spatiaux, comme Hubble, pour lire l'infiniment grand. Et ces deux aspects évoluent au même titre que les techniques qui les constituent. Pour ce qui est de l'organe, l'œil, il reçoit les images sur fond de rétine, à l'envers de ce que nous considérons comme la réalité. C'est-à-dire quand je regarde Patrice, je le trouve assis sur une chaise, alors que normalement sur ma rétine, il serait collé au plafond et la tête en bas. Voilà. Au fond de la rétine, c'est comme ça. Donc, il y a déjà une première modification. Une intervention du cerveau est donc nécessaire. L'autre aspect de la vision, c'est que l'image reçue est rétablie et comparée à un catalogue d'images qui est en gros notre base de données. S'il y a une correspondance, on obtient une dénomination. S'il n'y a pas de correspondance, il y a ignorance. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ça c'est une gourde, mais bon, si vous la voyez, Et si vous l'identifiez en tant que gourde, c'est que dans votre cerveau, il y a une image qui correspond à celle-là. Pas à l'identique, mais on va dire en tant que concept. Voilà. Et si quelqu'un, si on trouvait dans le monde quelqu'un qui n'a jamais vu de gourde, il ne saurait pas ce qu'il voit. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai. Alors, c'est vrai pour la vision, mais c'est vrai pour tous les autres organes. Voilà. Autre élément aussi qui concerne la vue, c'est la couleur. Donc, notre œil reçoit un certain nombre de fréquences qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mais qu'en est-il des infrarouges et des ultraviolets? Voilà. Donc, la couleur n'est pas, donc une convention est partielle. Car certaines fréquences échappent à nos yeux. Donc, si vous voulez, pourquoi les infrarouges et les ultraviolets? Parce que, bon, on va dire que ces fréquences-là, elles existent, puisque scientifiquement, on sait les utiliser. Mais en fait, l'œil ne les perçoit pas. Voilà. C'est en cela que les sens sont imparfaits ou impur. Impur, c'est, faut le prendre au sens large. Voilà. Pour en terminer sur les anomalies de la vision, certains de nous sont myopes, d'autres presbytes, d'autres peut-être ont d'autres atteintes, mais notre vision des couleurs peut être aussi altérée de différents troubles. Alors bon, comme la chromatopsie, enfin, c'est des altérations qui font qu'on ne voit pas les couleurs comme elles sont. Comme le daltonisme aussi. Voilà. Ce développement nous permet de comprendre que notre vision est tout sauf un gage de vérité. Nous passerons sur les autres aspects, par exemple psychologiques, qui altèrent aussi ce que nous voyons ou croyons voir. Voilà. Il y a quelques années, je m'étais intéressé à ce qu'on considère comme un témoignage dans les enquêtes policières et dans la justice. Et c'est assez étonnant. Voilà. Et assez étonnant, c'est-à-dire en fait des gens de bonne foi, parce qu'il est question de ça, des questions de bonne foi, des gens qui maintiennent des points de vue qui sont différents, voire au contraire, voilà, dans la même situation, quoi, voilà. Et c'est pas, comment dire, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la tentation du mensonge, c'est juste qu'ils ne voient pas les choses de la même façon, voilà. Si on prend par exemple, je ne sais pas, il y a un carrefour, là c'est un accident. Selon qu'on est passé d'un côté ou de l'autre du carrefour, on va pas voir tout à fait la même chose. Alors que là, on peut considérer que la situation est objective, quelque part, fait qu'il y a une objectivité de la situation, on peut la regarder de façon différente. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. On en parlera éventuellement plus tard. Voilà. Ce que nous devons retirer de cette brève étude de la vision, c'est de constater le peu de fiabilité de notre regard et de notre point de vue. Voilà, dans l'imitation de Jésus-Christ, il dit un truc, notre raison et nos sens voient peu et nous trompent souvent. Et cette étude peut être étendue aux autres sens, voilà, par l'étude des organes de captation, par les organes d'émission, par la gestion qu'en fait le cerveau, ainsi que par les objets des sens. Voilà. En fait, on s'aperçoit donc qu'il y a des modifications et que par les sens, alors que c'est ce qui nous sert à construire tout notre système, y compris celui qui va vers Dieu, on va dire que ce système n'est pas fiable. Voilà. Donc la conclusion qui s'impose, c'est que l'intégralité de notre système est totalement relatif, imparfait et impur, y compris le mental, donc y compris le psychisme. D'où l'impérative nécessité d'épurer notre système, voire d'en changer. Et ceci concerne avant tout ce qui concerne notre rapport au Seigneur, en théorie, mais aussi dans la pratique, ainsi que dans notre façon de l'aimer. C'est ce que propose Jean de la Croix. Et Dieu introduit dans la nuit obscure ceux qu'il veut purifier de toutes ses imperfections pour les faire monter, sachant que cette purification est passive. En premier lieu, dans la nuit des sens, puis en deuxième, donc dans la nuit de l'esprit. Cette purification ressemble à un sevrage. Bon, c'est là qu'on rejoint les bonbons de Jean-Claude. Ça ressemble à un sevrage que peut exercer une mère sur son enfant. Elle vient à un moment de sa vie où il doit arrêter de s'allaiter et où il doit se nourrir d'éléments extérieurs, où il descend des bras de sa mère et il doit apprendre à marcher. La grâce de Dieu imite cette mère pleine d'amour. Après lui avoir fait trouver sans travail la douceur et la saveur du lait spirituel et goûter une certaine joie dans les exercices spirituels. Cette nuit spirituelle, c'est le partage du petit nombre, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà exercés et avancés dans la vertu. La première nuit des sens est amère et terrible pour les sens. La seconde est incomparablement plus horrible et épouvantable pour l'esprit. Ce propos n'a pas pour but de vous effrayer, mais que vous compreniez la dimension du travail qui nous attend. Dieu, qui nous veut du bien, mais pour nous élever, il doit nous sortir de cette manière grossière de l'aimer, qui est la nôtre, et pour cela, il souhaite nous délivrer de ce bas exercice des sens et du discours. Et nous pouvons à tout moment sortir de cette purification sans perdre le bénéfice du travail effectué. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à plusieurs étapes, il est noté qu'on peut sortir du travail si c'est trop pénible, tout ça, ainsi de suite. Mais il n'y a pas perte du travail qui est fait. Si vous voulez, on pourrait le comparer à un escalier. Alors, il y a des volets d'escalier, puis on va dire qu'il y a des paliers intermédiaires. On va dire qu'on essaye de monter cet escalier, que c'est difficile de monter cet escalier. On arrive sur des paliers, on monte, et puis à un moment on dit « bon, j'arrête parce que j'en peux plus, c'est trop difficile pour moi ». Et à ce moment-là, on va dire qu'on retombe, mais on retombe qu'une volée, on s'arrête sur le palier intermédiaire. Donc on ne retombe pas en bas. Voilà. C'est à peu près l'image que je vous donnerai de ce que ça. Et j'ai perdu mon fil. Voilà. Alors ce qui est dit, c'est dans l'Apocalypse 3.8 aussi. « Je connais tes œuvres, je viens d'ouvrir devant toi une porte que personne ne fermera. Tu n'as guère de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Une des plus grandes difficultés de ce processus, c'est de lâcher prise, laisser agir Dieu, abandonner nos habitudes de pratique, car ce que nous mettons en œuvre trouble l'action de Dieu au lieu de l'aider. L'âme est déjà dans un état de contemplation, c'est désormais Dieu qui est en elle, qui agit en elle. La contemplation n'est pas autre chose qu'une infusion secrète, paisible, amoureuse de Dieu, et qui, à l'occasion, embrase l'âme de l'esprit d'amour. Jean de la Croix nous dit « Dieu ne communique jamais la sagesse mystique sans y adjoindre l'amour qui permet de la répandre. » Pour la nuit de l'esprit, je vais vous rappeler une phrase de Jean de la Croix. « Il s'agit en effet de choses tellement intérieures, celles que je vous ai données au début, que nous n'avons pas de termes pour les exprimer, car le spirituel est au-dessus du sens. Aussi est-il difficile de dire quelque chose de la substance de ce qui est spirituel si l'on n'est pas profondément pénétré. » C'est une phrase qui est extraite de la Vive Flamme d'Amour. Et en fait, on va y venir. Pour moi, ça a été la plus grosse des difficultés. C'est-à-dire que... Bon, je n'ai pas fini mon chemin, que ce soit clair. Mais... quand j'en parle avec Jean-Claude, en fait, la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer, à mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà. Alors, j'ai la chance, enfin, les gens qui travaillent lui ont une chance, c'est qu'il comprend, pour y être passé, ce qu'on est en train de dire. Voilà. Mais il y a une difficulté profonde. Et dans cette nuit de l'esprit, je ne vais pas la développer là, enfin, je fais un petit développement quand même, parce qu'en fait, il s'agit plus d'un travail particulier, et si j'avais écrit là-dessus, j'allais paraphraser ce que disait Jean de la Croix, et c'était pas satisfaisant. Voilà. Alors cette phrase-là de la Vive Flamme d'Amour, elle dit quoi? Elle pose deux éléments fondamentaux. Ce qui est de l'esprit s'exprime par l'esprit. Et nous retrouvons ça chez Saint Jean. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. En conséquence, notre chemin de purification passe de la chair à l'esprit. Mais aussi que le spirituel ne peut être exprimé par la langue des sens, la sagesse du monde. Ainsi, Paul nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et ces considérations deviennent donc comment le spirituel pourrait être exprimé autrement que par le spirituel, ou comment le spirituel pourrait-il être exprimé par le matériel, voire le rationnel. La sagesse humaine est la sagesse du monde, enfin pardon, la sagesse humaine est la sagesse du monde. Elle représente ce que les pères de l'Église ont défini comme l'esprit du monde, qui selon la tradition s'oppose à l'esprit de Dieu. Ainsi, l'enseignement de Jean de la Croix ne peut-il pas être vulgarisé? Voilà. Si vous voulez, je vous le lis. C'est pour cela que Jean de la Croix a développé son enseignement sous la forme particulière de poèmes. Non par souci d'esthétisme, mais parce que cette forme s'imposait à lui. Son message étant spirituel, il se devait de prendre une forme spirituelle de la même façon que le Cantique des Cantiques. D'accord, Francine? Merci. C'est aussi... Non, c'est un clin d'œil, c'est rien de... C'est aussi pour ces raisons que cet enseignement se vit et qu'il ne peut pas se traiter intellectuellement. Voilà. Enfin, on pourrait dire la même chose de la Bible.
C'est tout le sens de la poésie.
Comment ?
C'est tout le sens de la poésie.
Oui. Comparons notre fonction... Alors, pour vous faire comprendre en quoi consiste le travail de purification avec Jean de la Croix, comparons notre fonctionnement à un ordinateur, alors de manière sommaire. Hein. Comme un PC, nous sommes pourvus d'une base de données, un ensemble de données, et d'un microprocesseur pour trier ces données. Voilà. Or, nous avons vu précédemment que notre base de données, qui était alimentée de façon matérielle, c'est-à-dire imparfaite et impure, ainsi que notre raisonnement. Il en est de même pour nos activités spirituelles. La purification chez Jean de la Croix consiste donc à changer totalement de système. Alors d'abord, il faut abandonner le vieil homme, mais ensuite, il faut changer de système pour tous les aspects. Saisie des données, on va dire, traitement des données, tri des données, et de tout confier au Seigneur. La nuit obscure doit nous permettre ce changement en effaçant l'ensemble du système initial et de fonctionner avec un nouveau. Notre difficulté principale consiste à cet effacement, car nous y sommes identifiés, on l'a vu plus tôt. Et le supprimer consiste à accepter cette disparition, la mort à soi-même et tuer le vieil homme, et accepter de vivre dans un nouvel homme, dont nous ignorons tout, passer d'une loi impure à une loi pure, d'une foi impure à une foi pure. Tout est là. Nous devons donc abandonner nos procédés et nos moyens d'agir humains, mais connus, pour des procédés et des moyens divins. Cela implique aussi que notre entendement sorte de lui-même, c'est-à-dire que d'humain et de naturel qu'il était, il devienne divin. Le but de la purification est là, et l'union de Dieu est à ce prix. Alors là, pour conclure, je vous ai fait une copie d'un poème de Jean de la Croix qui explique, si on peut dire. Et en fait, plutôt que développer ça, j'ai préféré donc vous porter ce poème, vous donner ce poème. Alors, qui en fait, il explique ce qui se passe quand on est dans la nuit de l'esprit. J'entrais dans un endroit que j'ignorais et je demeurais sans savoir. Voilà. Je crois que c'est suffisamment clair. Hein ? Oui ? Mais lorsque je me vis là, sans savoir où j'étais, j'entendis de grandes choses. Je ne dirai pas ce que j'ai éprouvé, car je demeurai sans savoir. Toute science étant transcendée. Alors, toute science étant transcendée, ça veut dire, parce que ça, c'est un truc qui revient tout le long, toute science étant transcendée, c'est-à-dire toute science est dépassée par cet enseignement. De paix et de piété, c'est la science parfaite. Dans une profonde solitude, je compris en éclair cette chose si secrète que j'en restais balbutiant. J'en étais si enivré, si absorbé et transporté hors de moi, Lui, alors c'est ajenado, transporteur de noix, ça veut dire aliéné. Donc c'est l'aliénation du soi. Que mes facultés sensibles restèrent privées de toute activité. Voilà, là on arrive à la purification. Et mon esprit fut doté d'une compréhension sans entendement. Celui qui est vraiment élevé à cet état se voit défaillir à lui-même. Tout ce qu'il connaissait autrefois lui paraît insignifiant. Et tant sa science s'accroît en lui qu'il demeure sans rien plus savoir, toute science étant transcendée. D'autant plus haut il s'élève, d'autant moins il comprend que c'est cette nuée ténébreuse qui éclaire la nuit. Or, celui qui vient à la connaître demeure toujours sans rien savoir, toute science étant transcendée. Ce savoir du non-savoir est d'une puissance si élevée que les sages raisonnants jamais ne pourront le surpasser, car leur savoir ne saurait atteindre la compréhension sans entendement. Ce suprême savoir est une si haute excellence qu'il n'est faculté ni science qui puisse y prétendre. Quiconque aura su se convaincre à l'aide du non-savoir sachant s'en ira toujours surpassant. Et si vous voulez l'entendre, cette suprême science consiste en une haute expérience de la divine essence, c'est l'œuvre de sa mansuétude que de faire demeurer dans le non-entendement. Toute science étant transcendée. Alors, pour clôturer, attendez, pardon. Si vous n'avez pas de lecture, ce soir, vous pourrez le relire. Voilà. Et en conclusion, voilà, en fait, en conclusion de ce travail, je voulais vous donner une phrase donc ça s'appelle une distique de la Bhagavad Gita, qui dit « Mais qui traverse le monde extérieur avec des sens affranchis, d'attachement et de haine, docile à sa volonté, celui-là, l'âme disciplinée, aborde la paix. Dans la paix, il trouve la fin de toutes les souffrances, car dans l'esprit pacifié, bien vite, la vérité s'établit. » Voilà.
Merci. Eh bien, merci beaucoup.